Bienvenue à cet échange autour du thème rébellion, liberté, avec donc quatre auteurs qui, dans des styles différents, abordent ces points-là, ces questions-là. Donc Paul Bearne, qui a écrit Le Septième Guerrier Mage, donc qui a obtenu le prix Imaginal des lycéens cette année, qui a écrit avant d'autres romans de fantasy chez Mnemos et chez Bragelonne, et aussi un texte young adult d'anticipation. Voilà. Et donc dans Le Septième Guerrier Mage, on va suivre le personnage de Jal, un petit monsieur comme tout le monde, a priori. Qui va se révéler être bien plus que lui-même ne l'imagine, mais qui garde toujours ce côté très humain, qui fait que il va pouvoir incarner pour d'autres humains comme lui, des petites gens, un espoir de liberté. Voilà. Donc, est-ce que cette idée déjà de rébellion de liberté, pour toi, Paul, ça veut dire quelque chose par rapport au Septième Guerrier Mage?
Oui, tout à fait. Pour moi, Septième Guerrier Mage, c'est le roman de la recherche de la liberté par tous les chemins possibles. Et le premier chemin que connaît Jal, c'est la désertion de l'armée. Et il s'imagine d'abord que la liberté, c'est d'être tout seul et de pouvoir faire ce qu'il veut tout seul de sa vie. Alors, il trouve un butin, il veut aller le vendre dans une ville, une grande ville, et mener la grande vie. Pour lui, c'est ça, la liberté. Il se rend compte rapidement que la liberté, c'est un peu plus compliqué que ça. Et que ça passe par le fait d'affronter son passé, ça passe aussi par le fait de se lier avec d'autres personnes et de ne pas la vivre seule, cette liberté. Et que la liberté tout seul, ça n'existe pas. La liberté, c'est une liberté de groupe, une liberté qu'on doit gagner à la sueur de son front ou avec les poings contre ceux qui veulent nous la prendre. Et la liberté tout seul, ça n'a pas de sens. Même si lui, au départ, est convaincu qu'il ne va pas défendre le village en question, qu'il va s'enfuir, qu'il va trouver cette liberté dans la fuite, dans le plaisir égoïste de dépenser son argent.
Alors, nous avons aussi avec nous GD Arthur, qui vient de publier son premier roman, Eos. Et donc, on retrouve cette idée de la communauté, puisqu'on suit un groupe de petites gens qui ont juste pour espoir d'être tranquilles dans un petit coin et d'échapper à une organisation politique ne les satisfait pas, et dans lequel donc Eos au début ne se démarque pas spécialement, hein, et puis lui aussi va se révéler, va se découvrir, et il va avoir un rôle essentiel dans le destin de cette communauté, au risque de les mettre en danger, de très concrètement, avec des scènes parfois très fortes, et en même temps qui du coup va leur permettre aussi d'affirmer leur liberté. Du coup, est-ce que ça vous correspond aussi cette invitation à participer à vivre la liberté, histoire de rébellion?
Je suis assez d'accord avec Pierre. Sur l'idée que la liberté est en fait une somme de liberté. Et en fait, Eos découvre qu'il y a des strates de liberté. La liberté que se sont donnés le groupe des colons, qui ont tout vendu pour fuir, c'est une liberté tout d'un coup qui résonne avec sa liberté de jeune adulte ou d'adolescent finissant. Et en fait, c'est sa propre conception de la liberté qui se heurte à la conception de la liberté aussi des autres adultes qui l'accompagnent. Donc on a, malgré le fait qu'on soit dans une démarche de recherche d'un meilleur avenir, on a aussi à réguler nos interactions entre les uns et les autres au sein d'une communauté qui se cherche des règles. Hein. Bon, ensuite, il est libertaire dans l'âme. Donc il va plus heurter, on va dire, des conventions sociales qu'on se donne même lorsqu'on aspire à une forme de liberté. Hein. Et en effet, Eos a ensuite vit sa tragédie et il doit faire un choix. La liberté s'achète aussi, elle n'est pas donnée.
Alors, Pierre Golon, donc, vous venez pour Blizzard, dont le tome 3 vient de sortir, là, tout juste. Donc, une trilogie de fantasy aussi. On a des personnages qui, par contre, vont se retrouver à devoir avancer tout seul un temps pour échapper à la mort, tout simplement. Et qui vont apprendre dans ce cheminement ce qu'ils sont, ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Alors, tout seul, pas vraiment, hein, parce que quand on a un tigre... Dans le sable, on n'est pas vraiment tout seul. mais voilà, la trilogie se termine. De fait, est-ce que cette idée de liberté, de rébellion, elle va au bout de ce que vous vouliez ? Est-ce que
Oui. Alors en fait, dans Blizzard, l'idée de liberté, elle s'assimile à celui du climat, en fait, que ce soit l'espoir ou la liberté. Alors Blizzard, c'est un roman assez dépaysant, hein. On est dans un si vous voulez, un territoire complètement glacé, et cette idée de glaciation du territoire, elle s'associe justement à l'enfermement du gouvernement. Dans le tome 2, vous avez pas mal de passages qui vont reprendre des flashbacks pas mal de flashbacks qui vont revenir 10 ans avant qu'il y ait cette glaciation, avant qu'il y ait cette ère glaciaire, où les gens sont en liberté. Et en fait, à chaque fois dans le roman, dès que ça parle du climat glacial, là vous êtes dans l'enfermement, quelque chose, l'inquisiteur qui va un peu comme une toile d'araignée qui va vraiment mettre. Comment je peux vous l'expliquer? C'est assez compliqué ma vision effectivement de la liberté. Le froid dans Blizzard représente l'enfermement, que ce soit l'obscurantisme et tout ce qui est effectivement soleil. Alors c'est peut-être parce que je suis sudiste, hein, va représenter effectivement tout ce qui est espoir, tout ce qui est vraiment recherche de liberté. Je pense que c'est l'élément essentiel dans Blizzard, qui n'est pas visible forcément au premier coup d'œil, mais la symbolique principale de Blizzard tient là-dedans.
Donc nous avons avec nous Agnès Marot pour IRL, qui se démarque un petit peu des trois autres messieurs, parce que ce n'est pas de la fantasy. On peut le classer en science-fiction. Et puis là, on a pleinement cette idée de liberté, de rébellion, hein, puisqu'on a un personnage qui va vouloir sortir de sa condition, tout simplement parce que quand elle se rend compte de sa condition, qui est être un être virtuel, elle veut sortir de ça parce qu'elle se sent bien réelle et que cette situation la révolte, elle est concrètement enfermée dans un univers virtuel.
Oui, tout à fait. Alors la première étape, en fait, moi, avant la quête de liberté, c'est déjà la prise de conscience qu'on n'est pas libre, parce que ce soit dans IRL ou d'ailleurs de l'autre côté du mur aussi, qui est aussi une quête de liberté, mes personnages au départ n'ont pas assez de connaissance de savoir pour comprendre qu'ils ne sont pas libres. C'est-à-dire que pour eux, ils ont l'impression de vivre tout à fait normalement dans un monde dont ils connaissent assez bien les choses, etc. Et à un moment donné, ils vont se retrouver confrontés à leur ignorance, en fait. Et avant d'être un enfermement, c'est un enfermement physique, c'est d'abord un enfermement mental. Donc il faut d'abord qu'ils... La prise de liberté, en fait, passe d'abord par une prise de connaissance, un apprentissage de beaucoup de choses, et essayer du coup de sortir de cette ignorance dans laquelle on les enferme. C'est pas tant la liberté physique que la liberté morale, en fait, qui m'intéresse à la fois dans ce roman et puis dans De l'autre côté du mur.
Donc on a à chaque fois quand même quelque chose qui vous relie fortement ces notions-là, et puis cette idée de roman initiatique, hein, avec des personnages qui avancent, qui se découvrent et qui se construisent par rapport aux autres dans cette exigence qu'ils ont pour eux-mêmes d'être libres, et qui en effet du coup vont, comme Paul le soulignait, et j'ai dit Arthur le soulignait aussi, s'organiser avec la communauté. Est-ce que vous avez conçu ce cheminement, cette révélation de manière vraiment consciente, ou est-ce que ça vous semble évident de toute façon que voilà, y avait cette histoire à écrire, et pour chacun de ces personnages, il est évident que ça passait par cette prise de conscience, cette rébellion, ce désir de liberté voilà. Ou est-ce qu'il y avait un propos quand même un peu plus politique hein, de symboliser aussi la recherche de liberté? Alors, je sais pas qui a...
Le propos politique, je ne sais pas en connaissance on peut entendre le propos politique. Oui, oui en fait, oui. La liberté individuelle ne peut pas exister s'il n'y a pas, s'il y a un combat pour l'avoir et un combat collectif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut manifester tous les jours, hein, mais ce combat peut prendre beaucoup de formes. Dans le Septième Guerrier Mage, on a un roman de fantasy avec de la magie, donc on a tout un décorum et des codes de la fantasy. Mais cette magie consiste à se lier d'amitié ou au moins avec des liens forts avec d'autres personnes. Elle ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas plusieurs en fait, à partager cette magie. Donc c'est une, même si évidemment c'est une histoire d'aventure, c'est aussi une métaphore du fait qu'on ne peut rien faire tout seul. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas... là c'est un pouvoir magique, mais dans la réalité on sait bien que tout seul, on ne peut quasiment pas faire changer les choses. Et c'est le cas de tous les personnages de ce roman qui cherchent en fait, à se lier à d'autres personnes. On a la figure de l'opposant de Jal, c'est pareil, c'est un personnage qui est très seul et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est quelqu'un qui lui ressemble. On a dans tout le groupe d'amis de Jal, ce sont des gens qui ont été traumatisés par la vie, qui ont été séparés de leur famille ou de leur mari, et qui vont pouvoir se retrouver un lien entre eux et à ce moment-là retrouver le chemin de la liberté par le fait de recréer une communauté qui peut enfin... faire valoir ses droits. Donc oui, c'est vraiment le thème central du roman, c'est la liberté et la liberté à plusieurs.
La genèse de la position des personnages dans mon œuvre, en fait, la genèse de ce personnage, ce sont des personnages que j'ai croisés dans ma vie d'enseignant pendant 5 ans, et c'est l'univers de la fantasy nous permet de transposer magiquement des choses fortes que nous vivons dans la vie quotidienne. Et ces combats individuels pour savoir qui on est, quelle est notre place, comment on s'ajuste et comment les choses, on doit les mener et les faire exister, c'est quelque chose qu'évidemment j'ai un peu sublimé par rapport au vécu de toutes ces personnes qui m'ont frappé. Moi, dans le livre, je parle de la liberté de devenir adulte, de la liberté de devenir quelqu'un, et la liberté de ne pas couler dans le sens de la pente que l'on a. Et Ost, le personnage, se découvre être un terrible meurtrier alors qu'il se vivait comme un doux barde. Et en fait, c'est comment il va cohabiter avec ses démons pour justement ne pas s'aborder l'œuvre collective. Et en ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en effet, on est sur une démarche d'une politique au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais collectivement avec ceux qui constituent ma société, hein. Voilà en deux mots.
Oui, moi, en tout cas pour Yarel, ça a été vraiment conscient aussi. C'était vraiment une volonté initiale de parler de cette quête de liberté, pour la simple raison que je l'ai écrit au moment de la loi informatique et liberté, qui donc fait vraiment écho à ce que j'ai mis dans ce roman, parce que la loi informatique et liberté, c'est concrètement que le gouvernement peut, s'il veut, avoir accès à toutes nos données, aux données de nos caméras. On a des caméras partout chez nous, hein, soyons clairs, sur les téléphones, sur les ordinateurs. Dans la rue, il y en a partout. Et donc, le gouvernement n'a pas forcément les moyens de les traiter, mais un jour, ça arrivera peut-être, quand même. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de parler de ça dans ce roman-là, et donc de montrer que c'est pas forcément une sécurité d'accepter ce genre de choses, et que cette quête de liberté que vit mon héroïne, c'est à nous aussi de la vivre, en fait, dans notre monde, parce que, en fait, on l'a déjà acceptée. Plus ou moins malgré nous, mais c'est en tout cas ça existe, quoi. Du coup, c'est vraiment au cœur de ma problématique, et oui, c'est un engagement politique et en tout cas sociétaire qui est conscient vraiment de ma part.
Alors, en ce qui concerne Blizzard, en fait, à chaque fois que j'écris un roman, j'essaie de l'écrire à plusieurs niveaux de lecture. Et effectivement, on peut voir dans un premier temps uniquement le voir comme un roman choral avec plusieurs personnages qui ont qui vont rechercher leur identité, ou vraiment avoir une recherche de liberté, quelque chose de plus, une recherche de liberté particulière. Mais je pense que Blizzard peut se lire aussi comme à travers le prisme d'un miroir déformant de notre propre société. On parlait d'un point de vue politique, un Blizzard, c'est vrai que d'apparence ça peut paraître quelque chose d'assez simple avec un gouvernement totalitaire, mais si on regarde un petit peu les différents détails, si on voit par exemple le faucon qui est l'emblème de la fédération, renvoie pour moi à l'aigle nazi, effectivement, et on a vraiment, enfin l'aigle, oui, on a le système effectivement dans lequel ils vivent, peuvent faire également penser au stalinisme. On a donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui reflète en fait notre propre société. Et c'est en ça, je pense, qu'on peut retrouver effectivement cet aspect politique. Je pense qu'il ne faut pas y voir qu'une recherche personnelle, mais aussi un miroir de notre propre société.
Vous avez excellé tous les quatre. Au-delà de ces questions-là, hein, qui sont, comme tu le dis bien, dans le texte, dans un deuxième sens. N'empêche que, première chose, c'est aventureux, on avance dans le livre sans s'arrêter, on n'a qu'une envie, c'est voilà, qu'est-ce qui va bien leur arriver, avec beaucoup de surprises, et puis aussi avec des aventures parfois violentes. Hein, ils en bavent, hein, tous, les uns les autres. Est-ce que ça tient plus de... du procédé littéraire, de se dire bon bah voilà, de toute façon les personnages ils se prennent des coups parce que c'est comme ça, faut qu'ils avancent, ou est-ce qu'il y a, lié à cette idée de recherche de liberté, de rébellion, est-ce que forcément pour vous la rébellion elle va être violente, elle va être difficile, et la liberté difficile à acquérir, non pas seulement dans son combat mais dans sa chair, parce que physiquement c'est dur quand même. Voilà, mentalement aussi, hein, avec Eos qui manque de se perdre beaucoup dans lui-même. Donc, est-ce que chacun d'entre vous, vous vouliez cette idée de liberté, de rébellion, forcément à quelque chose qui va être violent, qui va être à gagner au prix du sang ?
Bon, d'abord, une histoire dans laquelle les personnages n'ont pas de conflit, n'ont pas de problème, ce serait pas un roman très intéressant. Donc, effectivement. On va construire un roman où on va plonger notre personnage dans les ennuis jusqu'au cou, c'est ça qui est drôle. Mais en l'occurrence, le thème de la liberté s'y prête particulièrement bien, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de liberté qui nous est donnée. Bien sûr, on vit dans un monde aujourd'hui, hein, en France, où on bénéficie des combats qui ont eu lieu avant nous, qui nous ont donné un certain nombre de libertés. Mais la liberté, ça s'acquiert, ça s'arrache de haute lutte à tout ce qui voudrait nous enfermer, nous éduquer dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on a envie de vivre, qui voudrait faire de notre vie quelque chose qu'on a pas envie de vivre. Donc oui, je pense que ça peut pas se faire uniquement dans la douceur. Alors forcément, on est dans des romans, donc ça va s'incarner par des luttes physiques. Mais je pense que ça reflète le fait que la liberté, même dans nos vies de tous les jours, ne peut s'acquérir que en apprenant à dire non, en apprenant à être en conflit avec les gens qui voudraient nous l'ôter, parfois par bienveillant, parfois pas bienveillant, et on ne fait que incarner dans des romans, et de façon un peu violente et un peu imagée, des choses que tout le monde vit dans sa vie tous les jours. C'est pour ça que ça nous parle, ce thème de la liberté. Même si on est dans un pays soi-disant libre, la liberté de chacun ne peut s'acquérir que dans le conflit. Et c'est bien ce que vivent nos personnages, je pense, les pauvres, tout au long du roman.
Moi, je voulais rebondir un peu là-dessus parce que justement, mes personnages ont en général une caractéristique qui n'est pas du tout à leur avantage, c'est qu'ils savent pas se battre. Ils sont même souvent assez maladroits et voire, dans le cas de Chloé notamment, profondément pacifistes. Du coup, quand ils se rendent compte qu'effectivement la liberté, elle n'est pas si facile à avoir, que il y a forcément des échecs, des difficultés et que tout le monde ne va pas forcément se laisser convaincre par un beau discours, ce que Chloé apprend à ses dépens un certain nombre de fois. Elle se dit, bon, il faudrait peut-être que j'apprenne à me battre, sauf que concrètement, on ne lui laisse pas le temps de le faire, et en plus, ça ne lui correspond pas. Et donc moi, mes personnages, au lieu de se battre physiquement, même si ils se retrouvent dans des mêlées de temps en temps, parce qu'il y a des conflits qui se créent autour d'eux, eux, tout ce qu'ils font, c'est se débattre, en fait, plus que se battre. Et la façon dont ils se battent, c'est vraiment plus avec les mots, avec leurs pensées. Eux, ils arrivent à convaincre les autres de les suivre dans la lutte. En revanche, ils ne, eux-mêmes ne sont pas violents, en fait. Même si y a une forme de violence dans ce qui leur arrive, dans les combats des autres autour d'eux, eux-mêmes, voilà, n'obtiennent pas la liberté par la violence, parce que pour moi, dans l'idéal, dans notre monde, ce serait bien qu'on arrive à obtenir la liberté autrement que par un gros combat qui ferait beaucoup de morts, en gros. Du coup, il y a vraiment ce pouvoir des mots et des pensées, parce que bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, vu que c'est une prise de conscience d'abord d'une liberté qu'on leur arrache par l'ignorance, en fait, leur combat se fait autant par les mots et la connaissance que par les mains, en fait.
La rébellion, c'est pas la révolution, c'est pas non plus la révolte. La rébellion, je suis encore une fois d'accord avec toi, c'est la capacité de dire non, et de dire non de façon éclairée. Pourquoi je dis non ? La révolte, c'est je réagis. C'est une situation insupportable, je réagis, je casse tout, je n'ai pas d'objet politique, j'ai pas de théorie politique derrière pour aller vers une révolution. La rébellion, c'est juste à côté, c'est pas dans cette dynamique-là, c'est de prendre conscience qu'on a une capacité à jouer au sein de notre société, de ceux avec qui on œuvre pour aller dans quelque chose, et justement se poser la question de quel est le sens de ce que je fais à moyen et long et court terme. Donc, les personnages que j'ai croqués sont issus de ce foisonnement de questionnements, juste encore une fois, sur cette tranche qui est extrêmement fascinante pour moi, du polymorphisme ou de la possibilité multiple de l'adolescence vers le déterminisme et la définition de l'adulte. Et ce passage-là, c'est le passage de toutes nos rébellions, et c'est le passage qui nous construit pour dire voilà ce qui est qui me rend digne. Donc c'est le cœur du travail que j'ai essayé de mettre. Donc effectivement, ça parle de la politique d'aujourd'hui chez nous en Europe, en filigrane. Ça se voit. Mais c'est vu à travers les yeux de personnages qui, justement, ne se sont pas encore déterminés en ce sens-là. Évidemment, pour que ça soit intéressant, il faut rendre les situations paroxysmiques. J'aimerais ne pas trouver un orque à la sortie de la tente tout à l'heure.
Alors dans Blizzard, en fait, on voit que la violence est inscrite dans la chair même des personnages. Et là où c'est le plus visible, je pense, c'est chez les Ersatz, c'est un peuple qui est issu d'une transformation ratée de mage. C'est-à-dire que c'est un mélange d'être humain et d'animal, un peu à la loup-garou, mais à part que ça reprend tous les types d'animaux. Et on retrouve effectivement c'est un combat, en fait. Il est symbolique d'un combat, du combat de l'être humain. Dans chaque être humain, vous avez quelque chose de violent, une sorte de créature bestiale. Et vous avez également un être humain qui a été créé par notre société, en fait, qui veut être bon et qui recherche cette liberté. Et cette liberté ne peut se trouver que par le combat déjà interne de ces deux personnages. On retrouve également ce combat à travers justement tous les dresseurs qu'on retrouve. Vous avez parlé du dresseur de tigre des sabres, vous avez effectivement le dresseur de faucons, etc. On retrouve effectivement cette dualité. Et donc, je pense que cette recherche de liberté, elle se fait d'abord effectivement par la volonté de combattre la créature qui est au fond de nous, avant, et qui a ensuite effectivement se ressentira à travers le combat. Mais même chez les peuples qui peuvent paraître les plus pacifiques, dans Blizzard, vous avez un peuple qui s'appelle les Esthètes, c'est un peuple extrêmement pacifique, et même eux vont être obligés de se servir de cette violence pour se débarrasser justement du peuple Ersatz qui est prêt à envahir le monde.
Je rebondis là-dessus parce que il y a aussi cette particularité avec les Ersatz, c'est ce que tu dis bien sur y a la part d'animalité qu'on a en nous. Et j'ai l'impression que dans chacun de vos textes, cette part d'animalité qu'on a en nous, elle va d'abord être représentée par l'autre. Alors pas le grand manipulateur méchant qu'on va combattre, mais les Ersatz, dans Jal, l'autre c'est le villageois. le villageois parfois un peu con-con, hein, face aux soldats qui a vu autre chose et puis qui se révèle, il va falloir qu'ils se débrouillent avec eux. Dans IRL, les humains, ceux qui ne sont pas virtuels. Hein. Dans EOS, les peaux vertes, qui sont d'abominables orques sanguinaires. Et puis finalement, ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça, ces différentes rencontres-là, comme une façon pour le héros de se confronter à ce que lui a d'animal ou de négatif aussi à l'intérieur, en se voyant dans le regard de l'autre, peut-être ?
Dans ce texte, en fait, la première rupture, c'est lorsque le personnage principal se rend compte qu'il prend plaisir à être violent et que ça l'effare, ça l'effraie, ça le brise. Ensuite, que cette violence lui permette de canaliser et de venir en aide à sa communauté n'est que un peu accessoire, c'est-à-dire que il ouvre les vannes à ne plus être lui et être ce que tu dis, c'est-à-dire la partie bestiale de ce qu'il était alors qu'il était poète dans l'âme. Et finalement, dans la confrontation avec les orques peaux vertes, si tu parcours l'ouvrage, j'espère qu'à la fin de l'ouvrage, tu te poses la question, mais qui des humains peau blette ou des orques peau verte est le plus à craindre?
C'est pas une question facile. En fait, y a une particularité aussi dans mon roman, c'est que Chloé n'est pas humaine, justement. Et donc, sa part d'animalité, elle en prend conscience du moment où elle sort du virtuel, en fait. Du moment où elle se confronte aux humains. Elle se rend compte qu'elle n'a pas de corps. Enfin, on lui en fabrique un, en fait, pour être tout à fait précise. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à réfléchir. Est-ce qu'elle est un monstre? Parce que ça se passe en 2088-2089. Elle a lu des livres qu'on connaît, nous, sur la science-fiction. Elle a vu Matrix, elle a vu tout un tas de films sur les intelligences artificielles. Et en général, ça tourne assez mal pour les intelligences artificielles, notamment celles qui essayent de prendre corps dans le monde réel. Et elles finissent toutes par vouloir dominer le monde et par vouloir créer une révolution qui n'est pas à l'avantage des humains. Or, elle veut créer une révolution, mais son but, ce n'est pas du tout de dominer les humains. Mais elle a un peu peur de... Est-ce qu'elle est obligée, finalement, de se transformer, elle aussi, en une espèce d'IA, comme on voit dans tous les films? Est-ce qu'elle est vraiment humaine? Parce que toute la question est là, en fait. Elle se sent humaine, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Donc, son animalité, c'est plus une humanité, en fait, finalement, comme tu disais tout à l'heure. Et qu'elle ne découvre que quand elle est confrontée aux autres humains.
Oui, moi aussi j'avais envie de rebondir sur la question de l'animal qui est en nous. C'est une bonne question parce que être libre, c'est d'abord savoir ce qu'on veut, savoir qui on est. Et c'est souvent, ça complète ce qu'on dit tout à l'heure, la liberté, ça ne peut se concevoir qu'à plusieurs. C'est en se confrontant à d'autres personnes qu'on peut comprendre qui on est. Dans ce roman, Le Septième Guerrier Mage, Jal qui déserte est laissé pour mort dans une forêt, il est recueilli par des villageois et on lui demande soit tu meurs maintenant, soit on te soigne et tu nous défends contre l'armée qui arrive, qui est d'ailleurs celle qui vient de déserter. Et donc au départ, lui, c'est pas du tout son choix. Mais en fait, sa liberté passe par le fait de défendre ces gens, de les comprendre, de les aimer, de se faire intégrer dans cette communauté. Ce qui est difficile parce qu'en face, c'est pareil, c'est, comme tu disais, les villageois ne sont pas très accueillants. Et donc, et également, il accepte de défendre ce village parce qu'il défend une petite fille qu'il garde auprès de lui depuis longtemps et qui veut s'établir dans ce village. Et c'est par l'autre, par cette injonction, tu vas nous défendre, que Jal va effectivement trouver la vraie personne qu'il est, qui n'est pas ce fuyard égoïste qui ne le rendra jamais heureux, qui n'est pas vraiment la personne qu'il a envie d'être, mais qui sera la personne qui aura dit non à l'envahisseur et qui aura permis à tous ces gens de se retrouver et de se défendre ensemble. Donc, oui, c'est ça. Acquérir la liberté, c'est contre, quel, contre les forces utilisées tout à l'heure de la nature, le froid, ou ça peut être contre un adversaire étranger, mais c'est d'abord en soi-même qu'on la trouve, cette liberté.
Ah oui, alors moi je voulais juste aussi dire que la recherche de la rébellion n'est pas effectivement synonyme forcément de liberté. Je parlais effectivement tout à l'heure des ersatz qui, eux, ils vont avoir un personnage effectivement ancré en eux-mêmes qui va être humain et un autre animal. Il y a cette bataille interne. Mais il y a également le peuple des esthètes qui sont un peuple extrêmement donc, pacifique, comme je le disais. Et eux, c'est en commençant à se rebeller, eux, au contraire, ils vont essayer de chercher la liberté pour les autres. Mais en fait, eux, c'est une malédiction. Il y a une scène qui est assez, assez symbolique dans le troisième tome où une troupe d'élite en fait, de ces esthètes va commencer à répandre le sang des ersatz, et dès l'instant où en fait le sang, donc on a bien le côté rouge qui représente en fait le côté un peu diabolique, touche la neige qui elle, le côté un peu pureté, un peu virginal, dès l'instant où ils commencent à répandre le sang, c'est-à-dire à se rebeller contre cette invasion, eux-mêmes ils se retrouvent maudits, c'est-à-dire qu'ils ont perdu eux-mêmes leur propre liberté qui était justement de ne pas répandre le sang, de ne pas faire ça. Donc pour effectivement, je voulais rebondir un peu là-dessus. Pour moi, la rébellion n'est pas synonyme forcément de liberté.
Je trouve dans vos textes, on a un autre point commun qui m'a frappé, c'est que le pouvoir en place contre lequel donc a lieu cette rébellion est manipulateur. Sont tous des manipulateurs complexes avec tout un système de toute une construction qui leur est propre et qu'on va découvrir peu à peu alors par différents procédés par des souvenirs par le récit cette espèce d'affreux de dictateur là qui on dirait une dictature médiatique comme aujourd'hui c'est très efficace dans Eos avec un récit qui entrecoupe le destin d'Eos et puis dans IRL par l'héroïne elle-même qui découvre tout ça donc du coup, la question, c'est est-ce que forcément la rébellion, elle se passe aussi face à des manipulateurs, à des gens particulièrement intelligents et qui sont d'autant plus redoutables. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé être évident, qu'il fallait que ce soit d'abominables manipulateurs ou c'est un hasard de vous retrouver là tous les quatre avec cette constante.
Pour moi, effectivement, la manipulation, c'est vraiment au cœur du roman, parce que l'héroïne elle-même est manipulée tout le long du livre. C'est vraiment, sa quête de liberté passe vraiment par ça. C'est-à-dire que quand elle se rend compte qu'elle est un personnage de jeu vidéo, elle découvre qu'on peut lui faire faire des choses sans qu'elle en ait conscience, qu'on peut lui faire aimer quelqu'un sans qu'elle en ait envie, ce genre de choses. Et quand elle arrive à sortir du jeu vidéo, du monde virtuel, pour se retrouver dans le monde réel, en se disant « c'est bon, ça y est, je suis libre », elle se retrouve en fait complètement manipulée par la même personne, mais par d'autres biais, donc plutôt par les médias, par la menace sur sa famille. Et du coup, effectivement, c'est vraiment un thème qu'on ne peut pas passer à côté dans ce roman-là. C'est pas forcément conscient comme réflexion, mais je pense que c'est aussi parce que... Ça passe par la manipulation médiatique, la manipulation du savoir, qui revient encore à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'on ne sait pas tout, que du coup, on ne peut pas réfléchir avec toutes les clés en main, et donc on ne peut pas trouver notre liberté tant qu'on n'a pas compris comment les choses fonctionnent et comment on peut se positionner par rapport à ça. Donc pour moi, oui, je pense que c'est que cette manipulation-là, c'est plus une manipulation du savoir, même si là, je l'exprime aussi par une manipulation physique, et que effectivement, la liberté passe par essayer de comprendre qui dirige, comment ça fonctionne, et du coup de pouvoir se positionner et agir.
Oui, alors pour moi c'est par hasard si les quatre romans qui parlent de liberté parlent aussi de manipulation. La manipulation, c'est un peu l'anti-liberté. C'est le moyen ultime de faire de vous quelqu'un qui ne décide pas, puisque vous n'avez pas les clés en main, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous croyez quelque chose qui est faux, et donc vous ne pouvez pas vous libérer. Dans le septième guerrier mage, on a donc des enfants qui sont manipulés par une sorte de mage qui veut les élever pour en faire ses propres disciples, mais corvéables à merci. Et Jal est le seul à comprendre que le but de ce personnage, En fait, son but, c'est d'en faire des marionnettes à son service. Et il essaie désespérément d'avertir tous les autres du sort qui les attend. Il se heurte à l'impossibilité totale des autres de comprendre qu'ils sont manipulés. C'est le seul à le comprendre et il en est extrêmement malheureux. Donc il finit par s'échapper, s'enfuir et retrouver d'autres personnes avec qui créer ce lien de magie. Donc oui, je pense que quand on pense à la lutte pour la liberté, on pense d'abord à des combats physiques, mais c'est pas le seul type de combat qu'il faut mener. On parlait tout à l'heure de trouver la liberté en soi-même. Donc le combat pour la liberté, c'est pas uniquement les armes à la main, ça va être aussi comprendre ce qui se passe, ça va être se découvrir soi, ça veut dire découvrir que l'autre en face ne ment ou dit la vérité. Ça passe par toutes sortes de moyens, la coercition, l'anti-liberté. Donc. La manipulation en est un bon moyen.
Si vous voulez intervenir ou...
Disons que dans l'objet de la manipulation, derrière, c'est la volonté agissante d'un pouvoir, quel qu'il soit. Il y a recours lourd à la manipulation lorsque l'objet politique de la société tourne en vide. Et donc c'est là, c'est Florence, c'est ces moments-là où l'expression du pouvoir ne passe que par la manipulation qui est le maintien du système, même s'il est arrivé au bout de son chemin. Quand on trouve ces logiques de manipulation, je pense, dans nos livres, c'est parce qu'on est aussi sur une société qui est bloquée sur ces mécanismes, ces dispositifs qui devraient être salutaires, dont la conduite, une réflexion de pourquoi nous sommes tous là ensemble. Donc la manipulation est vraiment liée à une perversion de l'objet du pouvoir.
Moi, je ne pense pas forcément que la manipulation soit à opposer à la liberté. Dans Blizzard, vous avez des personnages très manipulateurs, mais qui sont en fait l'instigateur de la liberté. C'est eux qui vont permettre la liberté. Alors, je pense par exemple à Diggins ou même Blizzard. Ce sont des personnages qui sont très très manipulateurs, mais c'est eux qui ont toutes les cartes en main pour établir la liberté de tout un peuple. Et moi, je pense que une notion essentielle, c'est déjà, c'est de ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un de libre est quelqu'un qui ne se ment pas à soi-même. Tous ceux qui manipulent dans Blizzard à mauvais escient sont des personnages qui déjà se mentent à eux-mêmes. L'inquisiteur et même Blizzard au final, ils se mentent à eux-mêmes et du coup ils ne sont pas libres. Dès l'instant où vous êtes franc, où vous êtes honnête avec vous-même, vous avez déjà pour moi cette liberté, parce que ça va entraîner justement le désir d'une justice, le désir de quelque chose de juste. Et je pense par exemple au dresseur ou à chasseur, qui sont deux personnages assez simples dans le roman, qui avancent comme ils le sentent en fait, sans désir de manipulation. Eux, sans le savoir, sont déjà libres, alors que des personnages comme effectivement l'inquisiteur, en fait tout découle d'un mensonge à soi-même. C'est vraiment l'histoire de base. Et donc c'est pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Si on ne se ment pas à soi-même, on est libre.
Du coup, on revient sans arrêt dans cette espèce de jeu de l'autre, la confrontation aux différents autres, et puis à soi, toujours hein, cette liberté à chercher en soi. Et on a autre chose qui est particulièrement fort, c'est malgré toute cette violence, et il y a une grande tendresse aussi dans les relations entre le héros ou les héros et ceux qu'ils croisent, hein, en termes d'amitié, en termes d'amour. D'ailleurs, parfois, on le voit bien dans Eos, hein, c'est très mélangé, cette question-là, et je trouvais ça intéressant que ce soit pas, qu'on puisse pas mettre un mot sur c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est un mélange des deux, c'est une fraternité. Voilà, et on le retrouve dans vos différents romans. Est-ce que c'est pas aussi la recherche de liberté, c'est pas aussi avec l'autre, mais dans cette tendresse, dans cette se libérer de peut-être ses craintes, ses doutes, pour s'ouvrir à la relation amoureuse, à la relation amicale.
Eh bien, pour reprendre les analogies que vous avez faites, c'est l'autre pendant, c'est le côté plus angélique de notre côté bestial qui s'exprime en nous, et c'est cet équilibre-là qu'on n'arrive pas à trouver, et qui est, c'est comme la marche, c'est un déséquilibre permanent, rattrapé, etc. Et en effet, moi je ne pouvais pas composer des personnages qui soient tout noirs ou tout blancs, très très cons ou pas. Hein. Ils réagissent comme des cons, certains, mais au fond, c'est nous. Ce livre, c'est vous, c'est nous. Voilà.
Oui, moi, je pense que c'est aussi un besoin, en fait, d'avoir cette tendresse particulièrement forte, parce qu'ils vivent des trucs tellement atroces ensemble que pour survivre, en fait, pour survivre à la fois physiquement, mais aussi mentalement, ils ont besoin de créer des liens, d'avoir... finalement, la liberté, c'est bien, mais comme disait Paul tout à l'heure... On ne peut pas la trouver tout seul, d'une part, et est-ce qu'on veut la trouver tout seul ? Est-ce que c'est un intérêt ? La liberté, si on la cherche, c'est pour les autres, en fait, aussi. Parce que, mais Chloé et aussi, d'ailleurs, Cybèle, dans De l'autre côté du mur, maintenant que j'y pense, les deux commencent donc par prendre conscience qu'elles ne sont pas libres, par chercher leur propre liberté, puis par se rendre compte que ça ne suffit pas. Peut-être qu'elles, elles peuvent s'enfuir, elles peuvent vivre leur vie si elles veulent, mais elles pourront pas être, elles se sentiront pas libres tant que leurs proches, tant que les gens qu'elles aiment ne seront pas libres également. Du coup, je pense que c'est vraiment un besoin plus que juste le pendant de l'autre côté. C'est vraiment un besoin pour les personnages, et aussi tout simplement parce que j'ai envie de raconter des choses difficiles mais sans déprimer mes lecteurs. Moi, j'aime bien quand c'est joyeux aussi, quand il y a une espèce de souffle, ce souffle de liberté justement. Et du coup, il y a aussi un aspect purement j'ai envie de plaire, en fait, que les lecteurs s'amusent, et que donc pour ça, il faut qu'ils aient aussi de temps en temps des émotions positives dans le roman.
Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, la relation amoureuse ou d'amitié devient, si j'ai bien compris, comme tes personnages sont pris en otage, ou la famille est prise en otage, donc ces relations deviennent une arme du pouvoir contre l'héroïne. Dans le roman, c'est plutôt le contraire, en fait. À la fois, l'amour ou la tendresse, qui sont des choses qui sont profondément humaines, peuvent nous donner la force de nous dresser, de dire non et de faire quelque chose de différent de ce qu'on faisait d'habitude. Ah, c'est le cas de Jal, qui, pour sauver cette petite fille, va quand même défendre ce village alors qu'il n'a pas du tout envie de le faire. Il n'a qu'une seule envie, c'est de s'enfuir et de vivre sa petite vie tranquille. Et à la fois, une fois qu'on a gagné cette liberté, ou qu'on essaye de la gagner, on devient disponible, libre pour les relations de tendresse, d'amour, d'amitié. Que ces relations ne peuvent naître que si on a déjà la liberté de donner la confiance à quelqu'un, si on a déjà... suffisamment de liberté d'esprit pour se consacrer à autre chose qu'à sa survie ou qu'à la lutte permanente. Et donc c'est en tissant ces liens d'amitié dans ce roman, en tout cas, qu'on obtient le pouvoir de se dresser contre l'envahisseur. Je trouve ça assez intéressant de voir que la tendresse ou l'amitié, c'est à la fois le moteur de la liberté et à la fois c'en est le résultat. Et comme tu dis, s'il n'y a pas de tendresse et pas d'amour et pas d'amitié dans un roman, ça serait quand même très aride. Et donc, pour que cette liberté ait un sens, pour que le lecteur ait envie de la voir éclore, il faut lui donner une raison d'être. Voilà.
Alors, effectivement, dans Blizzard, non plus. Dans Blizzard, en fait, il n'y a pas d'histoire d'amour, vraiment. Il y a une histoire d'un amour filial, à la rigueur, mais pas d'histoire d'amour, tout simplement, parce que les personnages, je rejoins un peu ce que disait Paul, c'est-à-dire qu'ils ont pas, ils ne peuvent pas, ils sont un peu brisés. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas se consacrer à l'amour, tellement la répression, en fait, les brise. Et au début, tous les personnages vont partir, ils vont être esselés. Ils vont tous être, il y a toujours cet isolement. Tous les personnages vont être isolés et ensuite vont se rencontrer. Et c'est en tissant ces liens de fraternité, d'amitié, qu'ils vont donner la possibilité d'avoir cette liberté, et là de construire éventuellement, on peut envisager des choses à la fin du roman sur l'amour, sur l'amour, mais l'amour ne peut naître effectivement que si naît la liberté, et cette liberté passe par la fraternité, par la réunion, en fait, de tous les personnages.
Du coup, bon, maintenant qu'on a établi que c'était absolument pas un hasard cette idée de liberté et de rébellion dans vos textes, Moi, je me demandais en quoi les choix que vous avez faits donc d'aller vers l'imaginaire, vers la fantasy ou la SF, en quoi ça vous donne cette liberté d'aborder ces notions-là. Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Pourquoi ce choix-là, en fait? Surtout, alors, je dis Arthur, c'est le premier roman, donc voilà, les autres, ils ont fait autre chose. Il y en a qui sont abonnés à l'imaginaire. Toi, tu as fait des thrillers avant. Est-ce que c'est par liberté que vous avez choisi ce genre? Est-ce qu'il vous laissait plus libre?
Moi, j'utilise toujours l'imaginaire pour mieux parler de notre société, justement. Donc, c'est une question qui me parle parce que c'est totalement conscient. Notamment là, bon, je suis certes dans l'imaginaire, mais c'est quand même pas très loin de notre réalité. Simplement qu'il y a plus de technologies qu'on a actuellement. Mais je pense que malheureusement, c'est quand même du domaine du plausible, ce que je décris. Si j'ai utilisé l'imaginaire, c'est que ça me permet d'aller plus loin que dans notre monde pour, ce que je disais dans une autre conférence hier, utiliser le « et si ». Et si on continue sur cette voie-là? Et si ça va jusqu'au bout? Et si on pousse vraiment au maximum de ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas réagir avant d'en arriver là? Donc moi, vraiment, toujours, je me sers toujours de l'imaginaire pour revenir à notre monde, toujours pour faire réfléchir à notre société, mais en développant un point particulier que je ne pourrais pas faire si j'avais en fait, finalement les contraintes de la réalité, parce que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais que j'imagine et que je pense possible.
Oui, alors la fantaisie, comme tu disais tout à l'heure, pour appuyer son propos, il faut arriver à des situations paroxystiques. Il est beaucoup plus facile de montrer quelque chose si c'est visible. Et donc, effectivement, dans notre vie de tous les jours, français moyen, on a rarement l'occasion de se battre contre des orques à peau verte ou des hordes de guerriers mages. Mais on a tous des combats pour autant, des petits combats à notre échelle. Et le fait de placer une intrigue dans un autre monde nous permet d'explorer des situations qui vont très loin pour comprendre des choses qui nous sont en fait très proches. Et je rejoins un peu ce que tu dis, l'imaginaire permet toujours de parler de notre monde, de toute façon il n'y en a pas d'autre. Donc, je pense que ça n'intéresserait pas le lecteur si ça ne faisait pas écho à sa propre vie, à son propre monde. Et simplement c'est un détour par l'imaginaire qui nous laisse en tant qu'auteur beaucoup de liberté pour choisir la situation qui nous permettra de décrire ce qu'on a envie de dire de notre propre monde.
Oui, effectivement, je pense que le fait de travailler dans l'imaginaire permet d'explorer, comme disait Agnès, des situations qu'on ne pourrait pas forcément faire dans l'univers contemporain. En fait, je pense qu'on utilise un petit peu ce que faisaient un petit peu les auteurs 18e, si... Enfin, c'est-à-dire arriver à faire à explorer un autre par la vision d'un autre peuple, notre propre société. Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi un miroir de notre société. Par exemple, dans Bizarre, quand les ersatz arrivent et que du coup tous les peuples, tous les habitants essaient de se réfugier dans les places fortes. Et que vous avez les autres habitants qui disent non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, les ersatz ne sont pas en train de faire ça, ils sont en train de mentir. Ça fait un peu écho effectivement aux crises migratoires qu'on a actuellement, tout ça. Donc on a, pour moi, c'est vraiment une possibilité d'explorer sans forcément le dire de façon explicite des situations actuelles. Effectivement, ce qui est super de pouvoir travailler dans l'imaginaire, c'est que vous pouvez vraiment travailler à deux niveaux, comme je disais tout à l'heure, vraiment une des situations où vous avez des combats, vous pouvez vous éclater à faire des choses extrêmement extrêmement sympas, extrêmement vivantes, et en même temps cacher un vrai message derrière qui n'est pas forcément visible, que certains le verront, que d'autres ne verront pas.
Je voudrais juste rebondir une seconde justement sur tu disais de s'éclater. Ouais, il y a vraiment la notion d'amusement aussi, en fait, qu'on n'a pas encore abordé parce que c'est un sujet un peu sérieux, la liberté, mais en fait, si j'utilise aussi l'imaginaire, mais pas que, parce qu'on peut aussi le faire dans le contemporain, mais moi, par exemple, le monde virtuel, tout est possible dedans, et je me suis vraiment amusée sur certaines scènes, et avec les nouvelles technologies, je me suis vraiment amusée à décrire des choses qui ne peuvent pas exister. Pour le coup, ça n'a aucun rapport avec la liberté, mais utiliser l'imaginaire me permet aussi tout simplement de m'éclater, et donc je pense aussi d'amuser le lecteur, et comme c'est des sujets sérieux, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même important de rajouter cette fraîcheur qu'on peut avoir dans la fantaisie aussi, parce qu'on est dans un monde complètement différent. Et donc, tout simplement de s'amuser, parce que c'est quand même pour ça qu'on lit aussi, hein, de temps en temps.
Bon, moi, mon vécu est fait de littérature sud-américaine. Et la littérature sud-américaine, même si elle parle de la réalité, elle ouvre des fenêtres sur le fantastique et l'imaginaire en permanence. Que vous preniez Vargas Llosa ou Gabriel García Márquez. Alors, je voudrais juste vous lire ce mot de Mario Vargas Llosa, que je vous traduis en même temps que je le lis. Hein. Un peuple contaminé des romans est plus difficile de rendre esclave qu'un peuple inculte et illettré. La littérature nous fait à la fois plus malheureux, mais aussi nous fait beaucoup plus libres. Et tous ces espaces littéraires nous permettent de parler de notre monde, du monde qu'on voudrait avoir autour de nous et qui nous insatisfait. Et pour moi, si j'ai choisi la fantaisie, c'est parce que c'est vraiment un espace où je peux écrire de la poésie en prose sur du long terme. C'est plus un univers qui berce la poésie. Voilà. Et voilà, c'est l'unique espace de poésie que je trouve dans les littératures modernes.
Alors, du coup, par rapport à ce que vous avez pu faire avant, ou pas, je suis désolée, mais c'est vrai que là, je m'adresse un peu plus à vous trois. Est-ce que c'est une épine dorsale? Est-ce que vous allez continuer à traiter de ça? Peut-être que vous travaillez dessus ou n'hésitez pas à nous dire aussi si ça continue. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire? Du coup, là, on peut retrouver GD Arthur qui va continuer. Mais... Ouais. De toute façon, on reste sur cette attente à la fin du livre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien mystérieux. Est-ce que ça va rester, ce thème-là, cette liberté, la question de la rébellion? Est-ce que vous allez rester sur ces idées pour la suite?
Alors c'est vrai, quand on regarde un peu en arrière, parfois j'essaie de me demander, mais quels sont mes thèmes préférés en fait? Parce que c'est pas évident. On a des idées qui nous viennent, on écrit des romans qui nous plaisent et. Et parfois, les lecteurs, dans les rencontres, nous disent « Mais quels sont vos thèmes préférés ?» Et là, tout d'un coup, on réfléchit, on dit « C'est quoi mes thèmes préférés ?» Et on réfléchit à ces romans et on essaie d'en trouver de façon empirique, en fait. C'est pas des choses qu'on a vraiment choisies. Et effectivement, le thème de la liberté est un des thèmes qui revient dans tous mes romans. Je pense que c'est par hasard, ça doit être quelque chose qui me tient à cœur, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'ai été confronté à des gens qui étaient très méchants avec moi, comme Sophie, par exemple. On a écrit un roman...
On a écrit ensemble et il m'a torturé.
Non, ça, c'est ta version. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose. En tant qu'auteur, on a des thèmes qui nous touchent. On écrit sur des choses qui nous plaisent. Et c'est par hasard si ça se retrouve d'un roman à l'autre. Tu évoquais tout à l'heure l'autre roman, Le Jour où. On avait donc des adolescents qui sont laissés à eux-mêmes, puisque tous les adultes s'endorment, tombent dans un profond coma. Et donc, ils sont entièrement libres de faire ce qu'ils veulent, au début du moins. Parce que très rapidement, ils se battent entre eux. Pour les ressources et aussi pour savoir ce qu'ils vont faire de ce monde. C'est le cas de tous les romans que... Alors je pense que dans les futurs romans, ça va se retrouver aussi. La liberté des femmes notamment est un thème qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur. Il y a beaucoup de facettes en fait à ce thème. Donc il y a des chances que dans tous mes prochains romans, elle y soit aussi.
Il y a un projet sur la liberté des femmes?
Ouais, mais je te dis rien.
La suite l'année prochaine pour Paul en tout cas.
Oui, moi, clairement, je vais rejoindre Paul, hein, parce que sur 5 romans que j'ai écrits, il y en a quand même 4 qui ont la liberté pour thème principal. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose qui me travaille, dont j'explore différentes facettes à chaque fois, et qui va aussi se retrouver dans le roman que je suis en train d'écrire, qui est cette fois du contemporain, donc il n'y aura pas de magie, et qui est l'histoire d'une jeune fille qui est boiteuse, donc comme je l'ai été pendant un an, pour ceux qui ne le savent pas. Et qui va décider que c'est pas parce qu'elle est handicapée, ou en tout cas à moitié handicapée, qu'elle va pas pouvoir devenir une super héroïne. Donc là, ça va être plus la liberté de vivre comme elle veut, alors que son corps l'en empêche, en fait. Donc en fait, finalement, si, résumé comme ça, c'est assez proche du thème d'IRL, même si l'histoire n'a rien à voir. Donc c'est vraiment un thème qui me parle beaucoup, qui m'habite, qui sans doute doit me travailler. Je le mets consciemment dans toutes mes histoires. Peut-être qu'un jour, il y aura une histoire où il n'y en aura pas, mais je ne sais pas encore laquelle.
Dieu y pourvoira, je ne sais pas.
Effectivement, moi, pour le thème de la liberté reviendra, mais alors sans doute pas en fantasy. Je ne sais pas si j'écrirai un jour la fantasy. Mais en tout cas, dans le domaine de l'imaginaire, je trouve effectivement que ça s'y prête bien. Là, j'ai effectivement un projet sur plutôt une dystopie, quelque chose de plus SF, où il y a effectivement toute cette idée de liberté qui ressurgit. Le thème s'y prête bien. Mais même dans les anciens, dans les thrillers, il y a et toujours l'idée de liberté, mais encore différente. Effectivement, comme le disait tout à l'heure Paul, c'est les petites libertés, les choses qui nous mangent de l'intérieur, avant de parler de la liberté avec un grand L. Donc oui, c'est quand même un thème qui me parle et qui reviendra forcément.
Merci. Est-ce que vous avez peut-être des choses à leur demander dans le public? Non, vous êtes tout tranquille.
On ne mord pas, hein, promis.
Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je vais vous remercier tous pour cette conférence. Et voilà. Bah, bonne continuation. Bon week-end aux Imaginales.
Et on va remercier le public. Hein.